Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet audio consacré au deuxième thème de ce mois-ci qui va tourner autour du grand arc-en-ciel tournoyant, du grand rêve en fait, du grand arc-en-ciel tournoyant. Pour pouvoir faire le lien entre les 12 facettes des 12 mères originelles qui sont venues avant et ce concept d'arc-en-ciel tournoyant, eh bien la 13e mère a été mon guide, bien entendu, mais mon guide pendant 2 ans. Oui, il m'a fallu 2 ans pour totalement intégrer ce concept dans ma chair. J'ai eu besoin de temps pour faire mien ces concepts si particuliers parce que vous allez voir que la conclusion de cet audio est, sur ce thème est particulièrement étrange et fort et intense. Donc voilà, j'ai pris du temps avant de comprendre les concepts de l'arc-en-ciel tournoyant et qui en fait étaient ces 13 mères. Non seulement de les comprendre, hein, comme on a pu voir, mais aussi de les intégrer, c'est-à-dire de faire vraiment sien ces enseignements, ces concepts-là, de les avoir vécus, de les avoir sentis, de les avoir expérimentés et de les avoir vraiment ingérés. Et pour cela, voilà, la 13e mère m'a pas lâchée, elle m'a tenu la main coûte que coûte pendant 2 cycles solaires parce que j'avais beaucoup de choses à comprendre et je vais essayer de faire un récapitulatif dans cet audio. Donc cet atelier, en fait, il a mis plus de temps que les autres à être tout à fait complété et puis c'était nécessaire parce que personnellement je ne peux pas transmettre des concepts que je n'ai pas moi-même intégrés auparavant. C'est pas une question là d'intégrité morale, etc. C'est parce que si j'ai pas expérimenté, si j'ai pas ressenti par le corps en fait, par le lien du corps et de la sensation, et bien tout simplement je ne trouve pas les mots, je n'arrive pas à être suffisamment pédagogue pour pouvoir faire passer les messages et pour pouvoir faire comprendre. Donc, j'avais besoin d'évoluer pour pouvoir créer cet audio que vous écoutez maintenant. Et voilà, chaque atelier, c'est le fruit de mes évolutions, c'est le fruit de mes découvertes, c'est le fruit de mes propres intégrations. Et celui-là a été un petit peu plus difficile que la moyenne. Et souvent, en fait, quand je parle avec d'autres thérapeutes qui animent des cercles de femmes et qui utilisent les enseignements des 13 mères, ou tout simplement d'autres étudiantes, souvent il y a décrochage avant d'arriver à ce 13e cycle, et en plus il y a très 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 souvent décrochage au cours de ce cycle-là, parce que justement ça demande, pour pas passer à côté en fait, à travers et en transparence, ça demande oui une belle évolution, une belle compréhension de tout ce qu'il y a eu avant et de ce concept-là qui est beaucoup plus fort en fait que ce qu'on pourrait croire. Et j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'aller plonger dans ce qu'était cet arc-en-ciel tournoyant, pas simplement de m'imaginer un bel arc-en-ciel qui tournoie, mais de comprendre ce qu'il était, ce qu'il représentait. Pas simplement le symbole, aussi beau qu'il puisse être, mais le sens. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et en fait, voilà, je trouve intéressant de vous en parler en début de cet audio, de dire qu'on n'a pas la vérité comme ça, tout entière, et qu'après une formation, même un voyage chamanique, on n'a pas toutes les réponses. Et je n'ai pas du tout honte que dans ce rôle de guide que j'endosse pour le bien de ces ateliers, et bien moi-même, j'ai à apprendre et à apprendre au cours des ateliers parce que je ne suis pas détentrice de la vérité. Et c'est parce que ça ne me pose aucun problème de l'avouer, de le dire et de le montrer à vous tel quel, que non seulement, et ben oui, finalement, c'est faire preuve d'intégrité et d'authenticité, mais aussi, c'est pour dire que je ne prends pas cette place de maître à penser ou de gourou, parce que c'est aussi en soi un des enseignements des 13 mères. C'est qu'elles se montrent à nous dans leur faiblesse au moment de l'acquisition de leurs apprentissages sur Terre. Ce n'est pas pour rien. Elles n'arrivent, les contes ne sont pas à un stade de leur vie où elles n'arrivent pas là en sachant tout et en devenant des maîtres à penser. Elles nous enseignent par le fait même qu'elles apprennent, qu'elles font des erreurs, qu'elles se blessent, tout comme nous. Et en cela, les 13 mères sont des enseignements très vivants, imparfaits, et c'est parce que c'est imparfait que c'est vivant, émouvant, et pas lisse et arrêté et apprêté comme ça, et donné en tant que vérité à boire et à croire. Voilà. pour moi, ne sont pas des maîtres à penser, mais plutôt des maîtres à réfléchir. Et je trouve que cette différence de termes est absolument incroyable et totale. Et parce qu'elles se mettent justement dans cette position d'étudiante de la vie, c'est ce que n'offrent pas justement tous ces gourous influenceurs actuels, pardon, qui délivrent des espèces de vérités irrévocables, à ne jamais remettre en question, ni les vérités à remettre en question, ni même eux d'ailleurs. Et ça, c'est le grand piège de l'ego spirituel finalement, dans lequel beaucoup tombent, et ce n'est pas le cas, je trouve, des 13 mères, et j'espère, et je fais tout pour que ce ne soit pas mon cas à moi non plus. Voilà. Donc, parlons du labyrinthe. Alors, voilà, c'est pourquoi rentrer le labyrinthe là-dedans. Je suis donc une exploratrice et une étudiante avant d'être un guide sur les territoires des 13 gardiennes. Et franchement, je dois avouer que j'adore cela. J'adore être cette exploratrice qui ne sait pas. J'adore apprendre avec elle, avoir des découvertes qui me mettent le cerveau à l'envers pendant des fois des jours et des jours. Ou alors, j'adore aussi être qu'elle me positionne devant des casse-têtes, devant des concepts casse-têtes, et que je me casse même les dents dessus, que je ne comprenne pas, que je cherche, que je recherche, que je fasse des rêves, que je fasse des tirages, que je fasse des peintures, jusqu'à ce qu'en fait j'arrive à attraper ce fil d'Ariane et que tout d'un coup la pelote se défasse vraiment d'un coup, parce que quand voilà, il y a un éclair de conscience, ça fonctionne comme un coup de foudre et tout se déploie. Et dans ce petit jeu-là de casse-tête et d'exploration, est intervenu en même temps que le grand arc-en-ciel tournoyant dont j'ai fait le rêve moi-même, et bien le concept de labyrinthe, qui en est la clé, est arrivé en même temps, et j'ai d'abord dû comprendre celui-là pour pouvoir comprendre l'autre. Alors le grand arc-en-ciel tournoyant... Je l'ai eu en rêve, je crois que c'était lors du cycle de mai, et j'avais totalement oublié le chapitre les chapitres de fin qui disaient que les femmes seraient appelées, certaines femmes, pour pouvoir suivre cet enseignement avec l'aide d'un rêve d'un grand arc-en-ciel qui tournoie. Et en fait, j'ai pas du tout collé les deux événements ensemble. J'ai fait des recherches sur le symbolisme de l'arc-en-ciel, sur la déesse Iris, etc. Et je suis tournée autour pendant un petit moment jusqu'à ce qu'enfin, après plusieurs jours, ça me percute enfin et que je me dise « Ah mais c'est le grand arc-en-ciel tournoyant, j'ai mis vraiment un petit peu de temps. » Et en fait, j'étais dans une maison, dans une villa qui n'était pas la mienne, mais que je visitais d'un grand chercheur. Et j'entrais dans cette maison qui avait des fenêtres partout avec un paysage absolument incroyable d'Écosse, très très beau. Et en fait, il y avait sa femme, et il y avait mon mari, et il y avait moi. Donc on était en présence de quaternité, donc quand il y a cette présence-là, je fais d'autant plus attention à ces rêves qui sont carrément d'ordre archétypal. Et en fait, à un moment donné... cet homme-là me parlait de raison, de science, et puis moi, en moi-même, j'étais là, oui, c'est très bien, moi aussi je suis scientifique, mais j'ai tellement envie de lui parler d'intuition, etc. Et puis à un moment donné, je me suis détournée, j'ai regardé dehors, et il y a cette espèce de ver, dans le sens un ver de terre, mais géant, de toutes les couleurs, et les couleurs tournoyaient autour de lui, lui tournoyait, et c'était quelque chose d'éthérique. Et en fait, il était dans le paysage absolument magnifique, et en fait, il venait à la fenêtre, et il venait me reconnaître, et je me taisais dans mon intuition, je ne voulais pas essayer de défendre mon point de vue et de remettre ce scientifique en place. Et j'étais tout obnubilée tout d'un coup par cet arc-en-ciel, et je savais, il me disait, en fait, qu'il me reconnaissait, et les autres n'ont pas eu l'air de le voir. Et en fait, ça m'avait suffi de me dire, ben oui, peut-être que mon point de vue, il est juste parce que je suis reconnue par ce grand arc-en-ciel tournoyant. Et en fait, c'était juste après de le regarder. Et en gros, voici le rêve. Donc voilà, il est possible, effectivement, comme le dit Jamie Sams, d'avoir le rêve du grand arc-en-ciel tournoyant qui vient. C'était vraiment un soutien, quelque chose de fort, une confirmation qui disait... oui, la façon dont tu vois les choses, elle est contradictoire avec la société, la vie dans laquelle tu vis, mais ce n'est pas parce qu'elle est contradictoire qu'elle est fausse. Et en tout cas, ça correspond à cet enseignement-là. Voilà. Donc, retournons à ce grand arc-en-ciel tournoyant, à ce concept délivré par la 13e mère, en passant d'abord par le concept de labyrinthe. Alors, vous retrouverez en partie les informations que je vais vous délivrer dans cet audio au sujet du labyrinthe dans un de mes articles de blog qui date de février 2021. Parce que voilà, si comme moi vous avez besoin de lire pour complémenter votre compréhension, moi j'ai besoin de voir des choses, je suis très visuelle et tactile, et peut-être que vous aurez besoin de voir ces informations-là pour pouvoir tout décanter, parce que je vais traverser beaucoup, beaucoup de choses dans cet audio. Donc, un labyrinthe, c'est quoi ? Un labyrinthe, c'est un symbole qu'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde, donc que ce soit celte, amérindienne, précolombienne ou en Crète par exemple, on a quelque chose qui traverse les aires historiques et qui traverse la géographie. Mais l'histoire la plus fameuse, eh bien, c'est bien celle de Crète, l'histoire du Minotaure dans son dédale. Et là, attention, petit warning, un labyrinthe n'est pas un dédale. La différence étant qu'un labyrinthe ne souhaite pas, lui, nous perdre. Il se déroule naturellement sous nos pas, sans que nous ayons à choisir à chaque fois sur quelle voie aller, sur quel chemin aller, et qu'il y ait des sortes de petits pièges. Donc, tous les dédales sont des labyrinthes, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que tous les labyrinthes ne sont pas des dédales. Voilà. Donc, l'un des labyrinthes les plus connus de ce genre, c'est-à-dire le genre qui ne souhaite pas nous perdre, du coup, ça ne peut plus être celui du Minotaure, mais bien plutôt celui de la cathédrale de Chartres, et oui. Et en fait, si on regarde bien, il nous prouve bien que son seul but, c'est bien de nous amener en son centre, peu importe sa complexité, il ne souhaite lui pas nous perdre. Et c'est sur ce genre de labyrinthe que l'on va travailler. Parce que le labyrinthe, c'est pas un symbole qui nous a livré tous ses secrets. Il reste mystérieux, il reste, comment dire, il nous appelle, il nous fascine, il est mythique, et personne finalement ne sait à quoi ces dessins-là pouvaient servir. Certains bio-énergéticiens, comme par exemple Stéphane Cardino notamment, ont fait des relevés énergétiques étonnants. Il y a bien eu, bien entendu, plein d'autres géologues. Hein. On sait que la cathédrale de Chartres fournit de radiesthésistes et de sourciers. Et l'hypothèse à ce jour, par certains géobiologues, et notamment Stéphane Cardino, c'est que les labyrinthes nous permettent d'augmenter notre énergie vitale, ce qui est déjà énorme. Autre point de vue, pour les Jungiens, le labyrinthe représente notre cheminement d'individuation, fait de routes, de déroutes, d'obstacles, de changements de direction en fait, plutôt que d'obstacles, pour arriver à notre centre qui est notre soi. Les traces les plus anciennes de labyrinthe que l'on a découvertes à ce jour sont plutôt des représentations de type classique à 7 cercles, plutôt que les 11 cercles du labyrinthe de Chartres notamment. Et c'est ce genre-là, à 7 cercles, que j'ai beaucoup étudié, notamment parce que d'autres personnes leur ont attribué un lien spécifique avec la déesse originale, notamment l'auteur Sérène Bertrand par exemple, et donc un lien direct avec le féminin sacré, et forcément, puisque c'est ce qui me passionne, j'ai donc été sur cette voie d'étude. Et sur cette voie, en explorant le concept même de labyrinthe, que vous pouvez voir en partie sur le blog, hein, j'ai directement été envoyée sur la piste des couleurs, puisqu'on a 7 cercles pour 7 chakras, pour 7 couleurs, donc le 7 qui revient et qui revient et qui revient, et ces 7 couleurs-là qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en plus du féminin sacré, il y avait cette histoire des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc je suis restée sur cette piste-là. J'ai été aussi mise sur le concept de Kundalini, parce que si on dit 7 chakras, bien sûr, on pense à l'éveil de la Kundalini, mais aussi parce que la forme même du labyrinthe ressemble tout à fait à un serpent qui serait enroulé sur lui-même, par exemple, quand il est en hibernation, en hibernation, c'est tout à fait une forme qu'il pourrait avoir quand il est endormi. Et ce serpent, c'est un des grands symboles de l'énergie qui est mise en œuvre dans notre corps. Elle est aussi représentée dans les cultures orientales par la divinité Shakti. Et la Shakti, on peut la raccorder à cette essence divine créatrice qui danse, qui semble créer le cosmos et la terre. Et c'est vraiment une des déesses les plus primordiales du panthéon indien. Donc voilà, originelle, primordiale, encore quelque chose qui m'a attirée. Ce qui m'a fait progressivement arriver à comprendre que le labyrinthe, en fait, c'était un temple personnel, un temple sacré, qui est là pour améliorer notre équilibre intérieur et qui permet aussi de confirmer notre relation avec la Terre et le cosmos, et qui va éveiller dans cette relation-là, multiple, ces trois dimensions, notre force de vie, c'est-à-dire la Shakti, qui est également la force de vie, et souvent sous la forme de notre Kundalini. En fait, le parcours du labyrinthe, c'est comme s'il allait allumer le serpent, le réveiller. Et en gros, ça va permettre, comme l'avait trouvé également les géobiologues, d'élever notre conscience à travers les énergies de la Terre et du cosmos qui vont rentrer en résonance avec celles de notre corps. Ainsi, le mouvement de parcours dans le labyrinthe semblerait générer une énergie subtile qui se relâche et se magnifie en fait en atterrissant avec notre Kundalini intérieur, souvent endormi. Et la forme serpentine semble tour à tour en fait inhaler, inspirer et expirer de l'énergie, comme justement une danse de création qui déroulerait, qui réveillerait en fait ce serpent intérieur. Et nos premiers pas dans la structure seront souvent ce moment de relâcher toutes nos pensées et toutes nos peurs pour éveiller cette force de vie-là. Il s'agit donc à la fois d'un temple d'élévation et d'une initiation par la vie elle-même, par la Shakti, par la Terre. Le labyrinthe, tout ça, c'est une mise en mouvement de la force de vie, une mise en mouvement, une danse de la déesse primordiale, et tout ça, ça va à un but, pas simplement de l'éveiller pour l'éveiller, mais d'aller justement, par cet allumage-là de ce feu intérieur, de trouver notre soi. Et je souhaite également dire très très rapidement que des études neuroscientifiques auraient mesuré que chaque changement brusque de direction dans le labyrinthe, dans tout le parcours, crée dans le cerveau un passage de l'énergie d'un hémisphère à un autre. Donc hémisphère droit et gauche s'activeraient à tour de rôle, et à force de s'activer, tac 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 à chaque fois comme ça, finiraient par se relier, par s'unir. Et on pourrait le voir comme un symbole de l'union sacrée, le Hieros Karmos, hein, qui permet justement la naissance de la vie, de la Shakti, de la fertilité. Donc parcourir le labyrinthe revient finalement à nous relier à cette force-là, à cette Shakti, vers la découverte de notre soi, comme si on reliait les deux, hein, la maison soi qui serait la vie. Et c'est un petit peu une aventure énergétique, mais aussi très très tactile et dans les sens qui nous attend. Mais souvent, c'est aussi une aventure, douloureuse. Alors pourquoi en rire? Parce que, voilà, la douleur, c'est... On le vit tous plus ou moins, que ce soit de façon émotionnelle ou même physique, à un moment donné de notre vie, on sera forcément en rapport avec la douleur. Et j'en suis arrivée à parler de la médecine de la souffrance, la médecine de la douleur. Cette médecine-là, c'est celle de la Vierge Noire, de la déesse de vie noire, l'initiatrice, mais également celle qui est reliée à la Terre, donc à nouveau cette histoire de Terre, de labyrinthe, de Shakti. Et on sait aussi que le labyrinthe, c'est ce symbole-là de pouvoir aller affronter nos peurs et nos blessures. Donc en allant dans cette quête du soi et de la vie, on va se heurter justement à retrouver ces méandres de notre douleur personnelle avant de pouvoir atteindre le centre, cette lumière intérieure, mais qui n'est pas tout à fait encore le soi, qui sera un germe de soi qu'il va falloir faire grandir. Pour imprimer les sensations dans notre chair, rien de mieux que de le faire sous l'égide de la peur et de la douleur, parce que l'intégration marche, nous l'avons vu, d'autant mieux lorsqu'il y a émergence de cicatrices, c'est-à-dire de blessures qui ont été guéries, les fameux guérisseurs blessés. En fait, c'est tout simple, s'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'intégration ni de sagesse. Marcher sur les traces du labyrinthe, c'est à la fois se créer des blessures dans quasiment toutes les zones de chaque chakra, mais aussi, dans une deuxième partie, d'aller les guérir. Donc on a cette initiatrice que nous avons vue, qui était la vie, la Shakti, et donc la Terre, qui va nous emmener, nous tendre la main sur cette route initiatique, et ça, que l'on en soit conscient ou non. Certains vont chercher à s'en préserver, à se couper de ces énergie parce qu'elle est douloureuse justement, en pactisant avec une autre énergie. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vraiment, vraiment difficile de comprendre que la douleur puisse être une énergie bénéfique et qu'elle n'est pas finalement quelque chose de mal ou de mauvais, parce que on a été éduqué dans les histoires, dans les films, de voir que c'est toujours le mal qui est responsable de la souffrance, des souffrances des héros et même de leurs obstacles. Et là, je suis en train de vous dire tout le contraire, et c'est difficile à croire parce que c'est toute notre éducation qui s'envole, qui doit être déconstruite, et ça prend du temps pour le comprendre. Comme je vous le disais en début de l'audio, pour moi cela aura duré notamment 2 ans. Et j'en suis venue à penser que c'est bel et bien l'énergie de vie qui nous fait vivre des souffrances pour intégrer, pour transformer, et non pas le mal, parce que le mal, justement, peu à peu, j'ai pu comprendre que il est là, justement, il fait tout pour nous sortir du labyrinthe et ne pas suivre l'initiation jusqu'au bout. Il a tout intérêt à ce qu'on sorte de ce labyrinthe, parce que, oui, pactiser avec le mal, hein, garantit le succès, la gloire, les richesses, et cela avec une étonnante facilité, notamment pour la première vie dans laquelle on le fait. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est ça s'appelle comme ça, c'est le chemin de facilité. Et mais vous le savez, pactiser avec ce genre de choses fait perdre l'âme, et notamment la connexion à l'esprit. Et l'âme, c'est le labyrinthe. Le mal est intelligent et plein d'astuces, mais franchement, son plus bel ouvrage a bien été celui-là, celui d'inverser et de construire un monde sur lequel on pense que la douleur appartient justement à ce mal-là et qu'il faut tout faire pour la fuir, pour s'en éloigner, pour fuir le chemin difficile et souffrant. Mais faire cela, fuir ce chemin difficile et souffrant, finalement revient à fuir son âme et son initiation pour en sortir et pour trouver la lumière. Et je ne dis pas par là que la douleur c'est bien, ce n'est pas ça. C'est pour ça que c'est tellement difficile à comprendre, parce que ce n'est pas le bien, mais ce n'est pas le mal non plus. C'est quelque chose d'entre les deux, qui est hors de la polarité et de la dualité. La douleur est enseignement et initiation. Pour autant, je ne demande pas ma clémence au processus initiatique qui veulent, comme enfin, tout ce qui est torture physique et morale, etc., pour pouvoir intégrer certaines sororités, fraternités, etc. Mais c'est intéressant de voir que ces deux concepts ont été associés et que ce n'est peut-être pas si anodin que cela. Je referme la parenthèse parce que c'est tout à fait une étude à part. Et on va revenir à nos moutons, à notre thématique. Donc voilà, si on ne s'arrête pas à cela, comme je vous l'ai dit, il y a création des blessures et aussi guérison. Et c'est donc deux étapes absolument différentes qui constituent en fait deux cheminements, le cheminement de l'aller et du retour, la guérison étant le chemin du retour dans le labyrinthe. Peut-être d'ailleurs avez-vous déjà entendu parler du chemin de retour, et bien voilà, c'est à peu près ça. Une fois les blessures faites, expérimentées, nous avons atteint le centre de nos pires peurs, de nos pires souffrances que nous avons à regarder en face, que nous avons à expérimenter une bonne fois pour toutes. Et derrière tout ce marasme sombre, nous avons pu voir la lumière. C'est peut-être une véritable illumination à laquelle on va faire face, mais la plupart du temps, c'est une lumière tout à fait banale, une lumière très petite, mais dans le noir, elle nous apparaît toujours immense, en tout cas grande et éclairante. C'est là que le chemin du retour va être entamé. On va avoir le courage de guérir une à une toutes les blessures, le courage de revenir en arrière et même de guérir les blessures que nos ancêtres ont pu nous transmettre par la voie un petit peu magique et mystérieuse du transgénérationnel. Donc on guérit, on a l'impression de ne faire que ça et qu'il y en a encore et encore toujours, parce que oui, la route est longue, elle est tout aussi longue pour entrer que pour en sortir. Mais cette lumière, une fois qu'on l'a trouvée au centre, eh bien, elle va nous accompagner. Et à chaque guérison, elle va se renforcer. Elle va devenir de plus en plus rayonnante. Et en fait, cette lumière, c'est tout simplement la flamme à l'intérieur de nous, la flamme de notre cœur, parce que le cœur, c'est le centre, on le sait. Et bien que la route de retour soit elle aussi semée, pas tellement d'embûches, mais de circonvolution, de changement de direction, eh bien, nous avançons et nous faisons grandir la lumière du cœur, la lumière du soi. Nous devenons donc, au fur et à mesure de nos pas, des êtres de plus en plus rayonnants et de plus en plus centrés, finalement. On pourrait même dire centrés sur le cœur, parce que c'est cela, finalement, être aligné ou centré. Donc, nos actions, nos dires, au fur et à mesure, vont être de plus en plus en accord avec ce centre, avec ce cœur. On va en dévier de moins en moins. Ce qui va au final faire de nous des êtres plus authentiques en fait avec ce que nous sommes au fond de nous, plus en accord avec notre mission de vie, comme on l'entend un petit peu dans le New Age, et donc plus intègre aussi. Et je voudrais qu'on prenne quelques instants pour faire remarquer ici, vous faire remarquer le voisinage à la fois de sens et de son qu'il y a entre le mot intégration et le mot intégrité. Alors en fait, on pourrait dire que l'intégration mène à l'intégrité. Plus un être a avancé sur le chemin du retour, plus il a intégré et du coup, plus il est intègre. Ainsi, plus on a parcouru encore et encore le cheminement des 13 mers, plus on a avancé sur le chemin du labyrinthe, plus on se guérit, plus on nourrit sa flamme du cœur et plus on devient un être authentique et intègre, parce que je le redis, l'enseignement de la 13e mère est celui qui nous dit que l'intégration mène à l'intégrité. C'est cela, le guérisseur blessé. C'est pourquoi nous nous sentons aussi bien finalement à côté de tout ce qu'on pourrait nommer des véritables chamans, parce que ce sont des êtres authentiques, sages et intègres qui rayonnent purement et simplement. Et nous les recherchons en fait, eux et leur lumière, comme si nous étions des êtres affamés parce que nous avons faim finalement de cette lumière. Cette lumière qui pourtant est en nous, à l'intérieur, et dont on peut se servir. Donc, arrivé ici, à ce moment du parcours du labyrinthe, vous voyez pourquoi j'avais activé la parenthèse au début concernant de choisir plutôt le chemin de la facilité à court terme, parce que arriver un petit peu plus loin, finalement, il nous fait perdre de vue l'accès à notre lumière et à notre âme en nous empêchant d'accéder au chemin du retour et même à notre centre. Et arrivé ici, on voit pourquoi le chemin de l'être authentique, c'est un chemin de courage et pourquoi il est appelé le chemin difficile. Alors qu'est-ce qu'a à voir le rêve du grand arc-en-ciel tournoyant, qui est un des grands symboles forts de ce 13e cycle? Le rêve de la Terre finalement est que chacun de nous, ses habitants humains, traverse le labyrinthe à l'aller et au retour, en faire vraiment tout le parcours total. La vision de la Terre est arc-en-ciel et tournoyant, il est donc plein de vie et plein de ces guérisseurs blessés là, qui sont ces êtres centrés, authentiques, intègres et avec cette flamme du cœur immense finalement. Parce que à quoi d'autre pourrait rêver la Terre finalement? Car cette flamme d'amour est un amour qui brûle pour elle aussi. Sans doute, si vous êtes ici et si vous êtes parvenu jusqu'au bout de cet enseignement, je vous ai peut-être déjà dit à quel point il n'y avait pas beaucoup de personnes qui arrivaient jusqu'à ce stade, eh bien, je suis absolument persuadée que vous aussi, vous avez dû ressentir déjà dans votre vie un amour absolument extrême et inconditionnel pour la Terre. Quelque chose qui brûlait et qui pouvait nous consommer entièrement. Donc, imaginons un instant à quoi pourrait ressembler la vie sur Terre si tous les humains avaient parcouru le labyrinthe aller-retour, qu'ils étaient tous guéris et intègres, et tous amoureux de la Terre. De nombreux humains l'ont rêvé, ils l'ont appelé différemment. Pour certains, c'est la Nouvelle Jérusalem, pour d'autres, le Jardin d'Éden, ou même Shambhala pour d'autres. C'est cela, la vision de la Terre, accéder en le créant, en chacun, par chacun, le paradis sur Terre. Et cela passe par la marche du labyrinthe, ou le grand arc-en-ciel, tournoyant. Dans Les Messagers de l'Aube de Barbara Martignac, qui retranscrit les informations canalisées par des énergies issues des Pléiades, au chapitre 10, on peut lire ceci. La Terre est constamment exposée aux énergies du cosmos, alors qu'inlassablement, les énergies de la Terre s'élèvent vers le cosmos. L'humanité sert de point sacré entre la Terre et le ciel, ce que certains ont appelé le pont de l'arc-en-ciel. C'est grâce aux messagers de l'aube, entre parenthèses, les humains qui se conscientisent, que ces énergies peuvent se fusionner afin que la lumière naisse et s'éveille en eux. Ils amènent ensuite cette aube naissante aux civilisations. Voilà qui vous êtes, voilà ce qu'est votre rôle. Ainsi, en intégrant les facettes et enseignements reçus tout au long des cycles des 13 mères originelles, nous exprimons le potentiel humain que l'on peut finalement nommer, de façon aussi jolie que l'a dit Barbara Martignac, le potentiel arc-en-ciel. La vision du grand arc-en-ciel est le rêve que fait la Terre et tous ceux qui aiment la Terre avec elle et qui traversent le labyrinthe. Elle inspire nos propres visions personnelles à nous. Elle l'a aspiré à d'autres, bien avant cette ère dans laquelle nous vivons, ces autres qui étaient aussi de grands amoureux de la Terre. Ces autres, on les trouve dans notre littérature, bien souvent, sous le terme des brillants, ou du peuple des brillants. Cela demanderait bien entendu d'aller un petit peu plus en profondeur, car parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai passé énormément de temps sur cet enseignement de la 13e mère, et toutes les preuves que j'ai pu accumuler, en fait, j'en ai fait l'atelier du Temple Rouge, un atelier à part, donc, et je ne peux que résumer ici, vraiment en très très grande ligne, qu'on trouve des indices de ces brillants dans la légende arthurienne, notamment avec Guenièvre, mais aussi dans la légende de Lémurie. Je devrais même dire que ce peuple lémurien est né en fait dans l'ère lémurienne et que ce sont leurs descendants dont il est question dans les mythes qui vont suivre et qui vont parler de ce peuple des brillants, ces amoureux de la Terre finalement, qui ont partagé la même vision, la vision de l'arc-en-ciel. Certains se sont même sacrifiés pour cela, et ce sont les 13 mères. Alors finalement, qui sont-elles? On les appelle les 13 mères de clan, parfois les 13 gardiennes, selon un petit peu d'où l'on vient. Mais ce que je préfère finalement, c'est le titre si juste que leur a donné Jimmy Sams dans son livre « Les 13 mères originelles ». Car nous parlons bien ici d'origine, des origines. Jimmy Sams elle-même a laissé des indices pour nous faire comprendre le lien entre les anciens habitants de la Terre et les mères originales. On les retrouve notamment dans le chapitre lié aux 13 crânes de cristal, un chapitre assez mystérieux qui fait que on commence un petit peu à douter de son enseignement lorsqu'on a vraiment les pieds sur terre et que l'on est un petit peu scientifique, et un chapitre que va délibérément laisser de côté, sauf si on cherche des informations, parce que c'est là que se trouvent des choses bien croustillantes et bien cachées. La Lémurie semble donc avoir accueilli des brillants, c'est-à-dire en fait des Pléiadiens. D'ailleurs, je vous citais il y a quelques minutes dans Les Messagers de l'Aube de Barbara Martignac. Et c'est un livre suivant les informations canalisées par des énergies issues des Pléiades. Il appuie fortement dans ses transmissions cette hypothèse que je vous livre ici. Et il n'est pas le seul. J'ai bien entendu fait mes recherches parce que j'ai eu du mal à y croire. Il y a également par exemple le livre La fleur de vie de Melchisedec en français. Il y en a d'autres en anglais. Pour moi, il ne fait aucun doute que les 13 mères originelles sont issues des Pléiades, en tout cas de la race qui va devenir Pléiadenne, et qu'elles ont été les premières à vivre le chemin de la souffrance avant de nous le demander à nous. Parce que, eh oui, on ne dit pas « fais ce que je te dis » et sans l'avoir parcouru nous-mêmes, les mères nous enseignent à marcher notre parole. Donc si elles nous demandent de traverser le labyrinthe, c'est qu'elles l'ont fait avant nous. J'ai demandé confirmation à la 13e mère, bien entendu concernant tout cela, parce que c'était tellement incroyable, mais en même temps tellement logique. Et c'est en œuvrant avec elle, en fait, en osant suivre les synchronies et les intuitions qu'elle m'envoyait, que j'en suis arrivée à déduire toute cette hypothèse. Les 13 mères, pour moi, sont arrivées sur Terre au moment de la Lémurie, et elles ne sont pas reparties. Elles ont choisi plutôt de se sacrifier en restant ici, avec nous, pour nous aider à devenir des arcs-en-ciel. Elles sont endormies dans la Terre pour soutenir le rêve de la Terre, en nous laissant, cet accès par le monde invisible, en quittant cette réalité, mais en gardant cet accès. Et comme Jimmy Sam le dit, en partant, elles ont laissé les 13 crânes de cristal. On trouve cette croyance dans de nombreux mythes, dont les mythes des aborigènes australiens par exemple. Ils disent notamment que les sœurs des étoiles, et là je vous fais remarquer que les Pléiades sont souvent appelées les sept sœurs, que donc les sœurs des étoiles seraient restées sur Terre endormies. Autre indice. Parce que rappelons aussi que l'Australie était une très proche voisine du continent de Mu, le continent de la Lémurie. Il y a encore bien d'autres données, notamment à Hawaï, qui faisait partie elle aussi de la Lémurie, et dont les chamans travaillent encore de nos jours avec ce qu'ils appellent par eux-mêmes le peuple des brillants. Pour moi, les 13 mères ont enseigné physiquement des cercles de femmes à d'autres femmes, que l'on appelle les prêtresses de Lémurie. Elles ont notamment refleuri dans l'époque d'Atlantis beaucoup plus tard, en se détériorant certainement un peu avec le temps qui passe. L'enseignement pur, on pourrait parler de pureté des 13 mères, n'est plus vraiment accessible dans nos croyances et dans nos traditions. On n'en a plus trouvé de signes ou d'aspects. Ce n'est qu'en le contactant directement que nous pouvons avancer vers cette pureté. Nos modes de vie ne permettent pas de les recevoir d'un coup, nous avons tellement à intégrer depuis. C'est pourquoi le chemin de toute l'année, de tout ce cycle solaire en compagnie des 13 mères, se fait encore et encore. Parce que à chaque fois, il va révéler toujours autant de magie, toujours autant d'informations cruciales qu'il nous faut intégrer. Après la disparition de cette ère de Lémurie puis d'Atlantis, les prêtres et prêtresses d'Atlantis et leurs descendants sont partis répandre ces enseignements dans les régions voisines. L'Égypte notamment en a beaucoup bénéficié, l'Amérique des Amérindiens également. On retrouve cette idée de lumière de corps, cette reconnaissance chez l'autre comme étant son égal, qu'il soit végétal ou animal. Les 13 mères participent là aujourd'hui encore activement à la réalisation de cette grande vision arc-en-ciel que la Terre a pour les humains et pour elle-même sur un autre plan. Un plan accessible à toutes et à tous par le biais de méditation, de peinture intuitive par exemple, la seule condition étant finalement d'être nous-mêmes des amoureux de la Terre et d'avoir le courage en nous de traverser le labyrinthe. Ainsi, nous sommes les derniers à recevoir et à maintenir vivants ces enseignements. Et nous faisons partie des maillons qui vont permettre de donner vie, de donner corps aux rêves de la Terre. Parce que nous sommes aussi des amoureux de la Terre. Et c'est ce que nous sommes avant tout. Et c'est en soi que nous nous rejoignons tous dans ces enseignements. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir été attentif à cet audio jusqu'au bout. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour la suite des enseignements dans cet atelier, dans ce 13e atelier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.